Bonjour à toutes et à tous. Content d'être avec vous encore aujourd'hui, en plus avec cette belle série que vous avez commencée sur Daniel. Merci. Et j'imagine que ça a déjà été très très encourageant, mais ça va continuer. Daniel est un personnage vraiment formidable, et les quelques premiers chapitres, c'est vraiment des histoires assez indépendantes les unes des autres, mais toutes liées par justement ce qui se passe dans cette zone de la Babylone. Donc juste une petite carte qu'on puisse se situer. Là, on est c'est à peu près la chute de l'Empire babylonien. Alors en général, notre culture historique s'arrête à peu près à l'Empire romain, mais il y a eu des grands empires juste avant l'Empire romain. Donc vous connaissez Alexandre le Grand et tout l'Empire grec et macédonien, donc qui a vraiment dominé le monde de la Méditerranée en cette période-là. Juste avant celui-là, il y avait justement l'Empire perse, et encore avant, il y avait l'Empire babylonien. Et là, on termine la période de l'Empire babylonien, donc vous voyez Babylone dans la petite étoile jaune, Israël, c'est sur la gauche, hein, Juda, au bord de la mer, et là, Babylone chute. Donc, vous avez vécu les cinq premiers chapitres de Daniel, et je ne sais pas au niveau du caractère de Daniel, pour ceux qui étaient là dès le départ, puisque c'est dès le chapitre 1 qu'on voit un peu le personnage de Daniel, qu'est-ce qui vous a marqué dans son caractère, dans sa personne? Qu'est-ce que vous diriez? Alors, il faut parler fort parce que d'ici, j'entends pas très bien. Vous diriez quoi? Le caractère de Daniel, la personne de Daniel, qu'est-ce qui vous a marqué, interpellé? Intégrité, tout à fait. Alors, à quel moment intégrité, justement? Exactement. Donc, vous vous rappelez, alors je ne sais pas si certains ont peut-être nous rejoignent aujourd'hui, mais Daniel faisait partie de familles nobles d'Israël, et Israël est tombé sous le siège de Babylone, et l'élite d'Israël, dont Daniel et ses trois amis faisaient partie, ont été exilé à Babylone, et là le roi Nebuchadnezzar voulait à son service tous ces jeunes hommes qui sont à grand potentiel, plutôt beaux de figure, assez intelligents. Il a dit je vais les faire à mon service, et donc je vais les nourrir comme je nourris mes serviteurs, avec des mets qui sont de chez nous, qui sont sacrifiés souvent aux idoles. Et pour certains, j'imagine que vous vous rappelez de cette belle réponse de Daniel, on va la prendre. Elle est en Daniel chapitre 1, et voilà ce qu'il dit au verset 8. Daniel prit la ferme décision, et c'est un jeune homme, hein, peut-être 17 ans, peut-être 18 ans, la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et je crois qu'effectivement, cette intégrité, cette volonté de ne pas être compromis, aucun compromis, eh bien, c'est ce qui a fait la force de Daniel. Et très intéressant, Dieu a vraiment béni Daniel. Et on va parler un petit peu de Daniel tout à l'heure, mais voilà comment je découperai ce texte. Alors, c'est pas des 1-1-1, je pense que c'est le format. On fera 6 parties 1. Tout d'abord, on voit dans ce passage qu'on a lu une présentation de Daniel comme un homme fidèle et sous la grâce de Dieu. Deuxièmement, on voit, vous avez vu, hein, vous avez entendu, la jalousie destructrice des collègues, de ses collaborateurs. Troisièmement, on verra qu'il appuie sur que la relation de Dieu doit être maintenue à tout prix. Quatrièmement, on verra qu'il a vécu avec la fosse aux lions une épreuve lourde, mais sous contrôle divin. Cinquièmement, on verra la punition du mal, que le mal est toujours puni au final. Et enfin, on verra que le point final de toute histoire, et en particulier de toute histoire que la parole de Dieu nous présente, c'est la gloire de Dieu. Et on va essayer de prendre justement des leçons à chaque point que nous verrons ici. Notre ami Daniel. Alors, pour tous les enfants qui passent par l'école du dimanche, on connaît Daniel, hein, n'est-ce pas? On connaît Daniel et la fosse aux lions. On connaît Daniel et sa piété. Et c'est vrai que c'est un homme exceptionnel. C'est un homme particulier. C'est un homme qui est sans compromis, on l'a dit, avec intégrité. Et alors c'est assez intéressant parce que vous avez vu, ils vont essayer de l'accuser et ils vont rien trouver. Vous avez vu ? Ils le disent ici. Ils disent, verset 5, « Les responsables et les administrateurs cherchèrent alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume. Cependant, ils ne purent trouver aucune occasion de le faire, aucune faute de sa part, parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni faute. » Et remettons-le dans son contexte. Donc là, c'est un nouveau patron qu'il a, Daniel. C'est le chef de l'empire perse et mède. Et encore quelqu'un qui domine son peuple. Et pourtant, il est dit qu'il travaille avec intégrité. Et même dans son travail, même sous l'occupant, on pourrait dire, il est fidèle envers son patron. Et c'est un encouragement pour nous. Vous savez, moi, si on devait chercher quelque chose à me reprocher, il suffirait de regarder une semaine ma vie et c'est bon. On voit que Daniel, c'est quelqu'un d'exceptionnel, de particulier. Et pas juste qu'il était fidèle, mais il est dit dans ce texte qu'il avait un esprit extraordinaire, un esprit très intelligent, un esprit supérieur. Et c'était quelqu'un doué de talent et d'une intelligence très forte. Et au point où, sur les 120 responsables, vous imaginez un petit peu, c'est comme si on prenait tous les ministres, les secrétaires d'État, les députés, et il y en a 3 qu'on va sortir du lot, et parmi les 3, on va prendre un qui est particulièrement fort. En fait, finalement, Daniel, c'est un peu comme le vice-président. Il est prêt à devenir le vice-président de cet empire ou le premier ministre. Donc Daniel est quelqu'un de très particulier, de très fort et remarqué déjà par Nebuchadnezzar, vous vous rappelez, hein, déjà auparavant, par Belsassar et maintenant par Darius, qu'on pense être Cyrus, il le dira à la fin du texte. Mais précisons-le, et vous avez vu, je pense que vous l'avez vu dans les différents chapitres, Daniel reste très humble. Vous imaginez un peu toutes ces intelligences, toutes ces compétences, toutes ces qualités, ça pourrait monter à la tête, mais Daniel, une des particularités de son caractère, c'est qu'il reste très humble. Pourquoi il reste très humble ? Et pourquoi nous aussi, nous devrions rester humbles, quelles que soient nos compétences, quelles que soient nos forces, quelles que soient notre aisance matérielle, quelles que soient nos capacités relationnelles. Daniel, je pense, connaissait l'état d'esprit de ce verset. Tout don parfait, tout don excellent viennent de Dieu. Tout ce que nous recevons, un autre texte de Paul, qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillis-tu? Dieu est celui qui nous équipe, qui nous donne nos compétences, notre intelligence. Nous voulons reconnaître que toute grâce vient de lui. Et ici, Daniel était particulièrement doué de la part de Dieu. Mais alors, on est très content pour Daniel jusqu'à ce que... Ah, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que le succès attire très souvent avec lui? La jalousie. Et on voit que ses collègues ne sont pas très très contents de ce qui lui arrive. Et là, c'est un encouragement aussi pour peut-être certains dans leur travail. Hein. Je pense que certains le vivent à cause de la façon dont vous comportez, ou votre travail, ou votre relation avec les autres, ou ce que vous produisez. Certains sont jaloux. Peut-être un poste que vous venez d'avoir. Certains sont peut-être jaloux en vous regardant, en disant « Ah, j'aurais bien voulu avoir ce poste ». Et sachez que vous n'êtes pas le premier, vous n'êtes pas la première, et vous ne serez pas ni le premier ni la dernière. La jalousie fait malheureusement partie de la réalité du monde dans lequel nous évoluons. La jalousie. Et la particularité, c'est que ici, on voit que la jalousie est vraiment, vraiment destructrice. N'est-ce pas? Alors, petit aparté sur la jalousie. Je pense que c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. N'est-ce pas? Même, voilà, il y a quelque chose qui quelqu'un reçoit une bénédiction ou quelque chose de bien et nous on voulait la même chose forcément que sur l'instant j'aurais bien voulu être à sa place. Et donc ça fait partie de notre réalité, ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie de quelque chose qui est humain. Mais on voit aussi que c'est quand même quelque chose de destructeur. Qu'est-ce qui se passe pour ces hommes? Ils vont construire toute leur réflexion pour détruire Daniel. En fait, il est dit que la jalousie, c'est se sentir menacé par le bien de quelqu'un. Parce que son bien menace mon bien-être. Alors, je veux soit détruire son bien, soit le détruire. Et voilà pourquoi c'est délicat. Vous savez que la parole de Dieu va complètement à l'encontre de ce sentiment-là. En Galates chapitre 5, verset 26, Paul mettra en garde l'église de Galates en disant « Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. » Et dans ce même chapitre, il leur dira « Attention, si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. » Vous vous rappelez le plus important commandement d'après Jésus, c'est quoi ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, Matthieu 22. Et il complétera en disant, le deuxième qui lui est semblable est celui-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et une des plus belles définitions de l'amour que nous avons dans la parole de Dieu, c'est en 1 Corinthiens chapitre 13, bravo. Et voilà ce qui est dit au verset 4. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux. Donc, être dans la jalousie, c'est une réalité quotidienne et pourtant la parole de Dieu nous dit attention, 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 attention. La jalousie est destructrice. Et alors, je réfléchis, je me suis dit, comment on fait? Et en fait, ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que c'est pas le sentiment à l'instant T que tu désires avoir ce que l'autre veut qui est le dangereux. C'est lorsque tu restes dedans. Lorsque tu tolères ce sentiment et que tu commences à construire tes pensées, tes actions à travers ce sentiment qui t'habite. Qu'est-ce que tu es en train de proclamer ? Mon bien-être dépend de est-ce que lui ou pas, il va avoir cette chose-là. Ou est-ce que moi, je l'aurai ? Et en fait, le chrétien, où est-ce que doit être son bien-être ? Son bien-être doit être en Dieu. Là est votre bien-être. Là est la première réponse à tout sentiment de jalousie que nous pourrions avoir. Notre bien-être n'est pas en ayant ce que l'autre a ou pas. Même s'il a une super voiture, que j'ai une voiture plus moche, que j'aimerais avoir sa voiture, le jour où j'aurai sa voiture, je serai pas plus heureux. Peut-être quelques instants. Mais c'est pas ça, mon bonheur. Il a eu une promotion, moi je l'ai pas eu. Pourtant, ça fait 5 ans que je travaille pour cette promotion, ou même un poste à l'église. Mon bien-être ne sera pas là. Mon bien-être, notre bien-être, c'est dans la rencontre de la personne de Jésus-Christ. Et justement, notre ami Daniel va nous le prouver. Notre ami Daniel, on voit que ces messieurs, les administrateurs, ils se réunissent, ils sont tellement conduits par leur jalousie qu'ils vont aller voir le roi. Et ils font sortir au roi un décret. Alors, qu'est-ce qu'il dit le décret ? Je vais le relire avec vous. Tous les responsables du royaume, verset 8, les intendants, les administrateurs, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis que le roi proclame un édit comportant une interdiction sévère. Toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à un autre dieu ou homme que toi, sera jetée dans la fosse aux lions. Maintenant, roi, confirme l'interdiction et écrit le décret afin qu'il ne puisse pas être modifié contre la loi, qu'il ne peut pas être modifié comme la loi des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret d'interdiction. Rappelons-nous que Daniel, contrairement à ses hommes, ou que la majorité de ses hommes, lui, il est juif. Et on imagine que la majorité de ces hommes-là étaient perses, étaient de la nationalité du pays dominant. Donc, ça rajoute à leur jalousie, ça rajoute à leur exaspération de voir cet homme qui s'élève. Et donc, ils disent, on va attaquer sa foi. C'est sa foi qu'on va attaquer. Et ils ont raison. Oui, Daniel est tellement attaché à sa foi que même le décret du roi ne va rien faire contre cela. Alors, juste petite question. Sur quoi est-ce que ces hommes ont joué par rapport au roi? Comment ils ont fait passer cette loi? Ils ont joué sur quoi par rapport au roi? Ils disent, entre nous, on s'est dit, pendant 30 jours, on devrait que te prier, toi. Ils ont joué sur l'orgueil du roi, n'est-ce pas? Et le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé dedans, hein, direct. On verra après qu'il regrettera amèrement, qu'il fera tout pour revenir en arrière. Mais sur l'instant, un petit danger encore une fois, lorsqu'on se laisse conduire par notre orgueil, on prend des décisions qui sont pas toujours très raisonnées et très bonnes. Et malheureusement, c'est ce que Darius a fait. Et eux, ils ont réussi leur plan. Daniel va être une magnifique leçon du commandement sur que veut dire aimer son prochain. De tout son cœur et aimer surtout son Dieu de tout son cœur. Verset 11, je reprends. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa chambre. Là où les fenêtres de la chambre de l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Trois fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Qu'est-ce que Daniel a fait une fois qu'il a entendu que la loi, qu'il n'a plus le droit de prier, est sortie ? Il a prié. Il a prié. Waouh ! Et j'aimerais vous dire, donc c'est vrai que nous on regarde ça de loin, comme ça, on se dit « Oh là là, il est super Daniel !» Mais on parle quand même de la fosse au lion, hein, les gars. On parle de la fosse au lion, vous imaginez ? On est si Ruben, demain je t'attrape en train de lire la Bible, tu vas chez les lions. C'est ça. Tu te fais exécuter en gros, hein, parce que bon, on connaît la fin de l'histoire, mais normalement si tu vas dans la fosse au lion, tu meurs, quoi. Si tu vas à la chaise électrique, si on prend les États-Unis, ou tu vas au peloton d'exécution. Et on sait que certains frères et sœurs sont sous cette direction. Là, les amis, à chaque fois que j'entends cette histoire, à chaque fois que j'entends ce que Daniel a répondu par l'action à ce décret, ça m'interpelle. Ici, Daniel nous montre combien il veut que Dieu soit au-dessus de tout. Que Dieu soit vraiment sa raison d'être et sa raison de vivre. Que non seulement il peut perdre ce poste, parce qu'il va, voilà, il est déjà au niveau de, au-dessus des 120 responsables, administrateurs, ministres, il va peut-être devenir le vice-président, le vice-ministre, le vice-premier ministre. Il dit, tant pis, je vais peut-être perdre ça. Il va peut-être même perdre sa vie. Mais là, par son action, il proclame ce qui pour lui a le plus de valeur. Et il dit, vous pouvez tout m'enlever, jamais. Vous m'enlèverez ma relation avec Dieu. Vous pouvez tout détruire de ma vie. Jamais vous ne toucherez à mon attachement à mon Dieu. Et je crois qu'il a vraiment œuvré dans cet état d'esprit parce que, vous avez vu, c'est marqué, il a pas fermé les fenêtres. Donc voilà, s'il ferme pas les fenêtres, c'est qu'il va se faire voir. On aurait pu même se dire, bon, Daniel, tu peux pas prier maintenant un peu plus discrètement, Non, il a proclamé que la personne, la chose la plus importante dans sa vie, c'est son attachement à Dieu. Et voilà pourquoi on voit des empires qui se lèvent et qui tombent. L'empire de Babylone se lève, devient le plus puissant de ce monde connu, et ensuite il tombe. L'empire de Perse se lève et devient le plus puissant de ce monde connu. Et au milieu de toutes ces nations qui se lèvent, qui tombent, qui se lèvent, qui tombent, bien Daniel reste stable, solide, et il impacte son environnement. Pourquoi ? Parce qu'il savait où était l'essentiel. Il savait où était l'essentiel. Aucune honte de Jésus-Christ, de Dieu, bien au contraire, une fierté totale, et en plus, une confiance absolue en Dieu. Et cette confiance absolue, j'aimerais vous préciser celle de ses copains. Vous vous rappelez, Shadrach, Meshach et Abednego, ce qu'ils ont dit lorsqu'on leur a dit « Agenouillez-vous, sinon vous allez dans la fournaise ardente. » Et la réponse qu'ils ont faite à Nebuchadnezzar à ce moment-là est très 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 intéressante parce que ils répondront « Nous ne nous agenouillerons point, notre Dieu peut nous délivrer. » Mais même s'il ne nous délivrait pas, nous ne le ferons pas. En fait, il proclamait quoi ? Il disait, notre cœur, notre adoration, vient avant tout vers Dieu. Et on a absolument confiance qu'il fera ce qu'il doit faire. S'il faut nous délivrer, il nous délivrera. S'il ne faut pas nous délivrer, il ne le fera pas. Mais nous, on sait quelle est notre part. On laisse le reste à Dieu. Daniel, c'est la même chose ici. Vous me demandez d'arrêter de prier Dieu ? Je ne vais pas arrêter de prier Dieu. Est-ce que Daniel savait que Dieu allait le délivrer ? Je ne sais pas. Et peut-être qu'il ne savait pas. Peut-être qu'il ne savait pas ce qui allait se passer. Je pense qu'il ne savait pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a continué. Et c'est un encouragement pour nous. Est-ce que nous faisons de notre attachement à Dieu notre priorité ? Est-ce que chaque jour, et là, je me reprends moi-même, les amis. Moi-même, je sais que ce n'est pas toujours ce que je fais. Mais Daniel, notre prédécesseur dans la foi, nous encourage à reconsidérer cette question. Est-ce que chaque jour, ce temps avec Dieu est le temps de priorité dans ma vie ? Est-ce que chaque jour, je dis, Seigneur, il faut que je prenne ce temps avec toi. Il faut que j'ai cet échange béni autour de ta parole, dans la prière, parce que c'est de là que tout va venir. Est-ce que chaque jour, j'essaye d'aimer Dieu de tout mon cœur ? Et je crois que ce texte nous interpelle dans ce sens-là. Je crois que ce texte nous dit, venez à Dieu et faites de lui la priorité de votre vie. Vous êtes là cet après-midi, c'est que vous honorez, d'une certaine manière, Dieu. Vous prenez le temps d'écouter sa parole, de prier, de chanter. Mais ce que Dieu nous encourage à faire, c'est bien plus que ça, évidemment. C'est non seulement de faire ces choses-là, mais de faire de lui la raison d'être même de notre vie. Comme Daniel, dire, s'il y a bien une chose que je ne veux pas qu'on me retire, c'est ma relation avec mon Dieu. Alors je vous encourage, toutes et tous, à faire de ce temps avec votre Dieu un temps quotidien que vous ne rateriez sous aucun prétexte. Et je les connais, hein, les prétextes, je les ai tous donnés. Ah ouais, mais là, je me suis couché tard hier soir quand même. Là. Ah, mais là, je suis fatigué. Ah, mais j'ai tellement de choses à faire que là, je sais même pas quand est-ce que je vais caser ce temps-là. Ou alors peut-être dans le RER. Allez, je vais en prier un peu dans le RER. Etc, etc. Ou même, parfois, je vois pas trop ce que ça change. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut changer et va changer en prenant ce temps. Prenons ce pari, les amis. Prenez ce défi de dire, je veux faire de Dieu ma priorité, je veux m'attacher à lui de tout mon cœur, je veux le laisser être le maître de ma vie et je vais le manifester, entre autres, par ce temps que je vais passer avec lui. Si je dis à Priscilla, tu es ma priorité, ma chérie, je vais t'acheter tout ce que tu veux, mais que je ne passe jamais de temps avec elle, elle se posera des questions sur ma priorité, n'est-ce pas ? Et on peut dire la même chose avec Dieu. Dieu est-il notre priorité ? Veut-il... Est-il celui avec qui on veut échanger au quotidien, à chaque instant ? Prenons le temps de le faire. Il y a beaucoup d'aides, alors je recommande très fortement Notre Pain Quotidien, pour ceux qui travaillent, qui n'ont pas encore forcément l'habitude de lire la parole de Dieu. C'est un livre qui aide à la méditation quotidienne, où vous avez un texte à lire, un passage de la Bible à lire, quelques versets. Vous avez une petite méditation qui vous aide à mieux comprendre le texte, et vous avez ensuite une phrase de conclusion. Beaucoup d'autres livres peuvent vous encourager. Mais en tout cas, si vous avez besoin d'aide, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aides aujourd'hui qui sont disponibles pour que le chrétien puisse prendre du temps avec son Dieu dans la prière et dans la méditation de la parole. Mais faites le pari, faites le défi, faites de votre temps avec Dieu. Et là, je parle même aux chrétiens qui sont chrétiens depuis des années. Et je le sais, je suis moi-même chrétien depuis maintenant beaucoup, beaucoup d'années. Et je vois que le temps avec Dieu peut être un défi. Et que je peux le mettre de côté en disant « J'ai bien servi cette semaine. J'ai prêché hier, donc je peux me poser un peu. » Prenez ce temps avec votre Dieu, comme notre ami Daniel. Confiance absolue en Dieu de ce qui va se faire. Et la conclusion, donc Daniel ici, alors on a fait un pas, hein, vous savez, avec le chapitre 5, Daniel 5, vous avez fait un pas dans le futur, puisque... c'était des années après Nebuchadnezzar, donc on estime que Daniel là il a 80-90 ans, hein. Il est à peu près à cet âge-là, donc c'est pas le à chaque fois dans les cahiers d'école du dimanche on voit un petit jeune, etc. Non, c'est plus il est déjà bien âgé, celui qu'on a jeté dans la fosse aux lions, plutôt les 80 ans, 90 ans. Les amis, peut-être que vous traversez une réalité difficile aujourd'hui. Et j'aimerais vraiment vous encourager. Peut-être que certains traversent des circonstances où ils sont un peu comme Daniel. Là. Ils se disent, moi je suis dans la fosse aux lions, il y a des circonstances, vraiment je ne maîtrise rien, je ne sais pas ce qui va se passer. Et Daniel aussi, c'est une réalité violente. Encore une fois, on connaît la fin de l'histoire, donc on est content, mais n'oublions pas que, voilà, hein, on a vu à la fin de l'histoire que c'était pas des lions qui n'avaient pas faim. Certains disaient, oui, mais ils n'ont pas mangé parce qu'ils n'avaient pas faim. Le lendemain, on voit qu'ils avaient faim. Donc Daniel, il se retrouve face à ça. Et peut-être que votre épreuve, et le principe de l'épreuve, c'est qu'elle est dure. Le principe de l'épreuve, c'est que parfois, ça fait pleurer. Que ce soit des difficultés de santé que vous traversez, des difficultés financières, vous n'arrivez pas à creuser les deux bouts. Des difficultés de relation, vous n'arrivez pas à voir comment cette relation avec votre conjoint, avec votre fils, avec votre collègue, avec votre patron, avec un proche va se restaurer ou avec quelqu'un de l'église. Quelle que soit la difficulté, ça fait partie de la vie que c'est une difficulté qui fait du mal, mais soyons encouragés, parce que Daniel a vu au milieu de son épreuve. Je vous le relis. Verset 23. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Au milieu de l'épreuve, Daniel a su reconnaître l'œuvre de Dieu. Et j'aimerais vraiment vous affirmer, si vous êtes en Jésus, si vous avez reconnu que sans lui, vous ne pouvez pas être sauvé, que vous avez besoin de son pardon pour être sauvé et que vous l'avez reçu, il dit à ses disciples, mais il le dit aussi à tous ceux qui vont croire, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au milieu de l'épreuve, au milieu de la tempête, au milieu de vos difficultés financières, au milieu de vos difficultés relationnelles, au milieu de vos difficultés de santé, Jésus, il dit, « Je suis avec toi. » Et Daniel a vu, a senti la présence de Dieu à travers son ange avec lui. Je me rappelle ce frère dans notre église qui fait faire un contrôle parce qu'il sentait qu'il avait des problèmes de santé et il fait faire un contrôle par ses amis médecins. Il était lui-même dans le milieu et donc il attend dans la salle d'attente que son ami et collègue sorte les résultats de sa situation et de son potentiel cancer, de où est-ce que ça en était. Et le stress monte. Le stress monte dans son cœur, l'angoisse le remplit, et il a vraiment peur. Il se dit, je vais peut-être mourir, qu'est-ce qui va se passer, quels vont être les résultats. Et on le comprend, on le comprend. Et pour tous ceux qui sont passés par là ou qui ont accompagné des gens par là, vous savez combien ça peut être angoissant que d'attendre le résultat qui sûrement est négatif. Et au milieu de cela, il reprend le psaume 23 par le chant. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles et restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Et il rechante ce chant, en attendant les résultats, Et là, une paix qu'on appelle une paix divine, vient s'installer dans son cœur. Parce qu'il est convaincu que son Dieu est avec lui, quel que soit le résultat. Il ne sait pas quel va être le résultat. Il est convaincu que Dieu sera avec lui. Et là, le collègue ouvre, il a les résultats en main, il le fait rentrer, et à sa tête, mon frère en Christ, sait que la nouvelle est mauvaise. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, le médecin, vraiment atterré, il dit, tu n'as plus que 6 mois à vivre. Je suis direct, je te le dis tout de suite. Et dans l'échange de discussion qui se fait, c'est ce que notre frère en Christ nous raconte, en fait, la paix de Dieu a accompagné notre frère dans cette salle, et il était tellement en paix que c'est lui qui a encouragé le médecin. C'est lui qui a encouragé le médecin, qui était triste pour lui. Et les amis, ça fait 13 ans. Et il vient toujours à l'église. Le Seigneur a répondu à sa prière. Et ce qui m'a encouragé, c'est de voir que notre frère était dans la paix. Parce qu'il savait que Dieu était au contrôle. Il ne sait pas ce que Dieu va faire, mais il sait qu'il va le faire. Et cher ami, cher frère, chère sœur, quelle que soit la circonstance que tu traverses, reviens à ton Dieu, attache-toi à lui, fais de lui ta priorité et laisse-le ce que tu ne peux pas contrôler. Laisse le prendre en charge, le reste, les lions. Hein. On a beau être dompteur, vous savez que les lions, parfois, ils sont violents. Hein. Là, Daniel, il a dit, je laisse à Dieu le reste. Moi, je fais juste ma part. Faites votre part dans votre petit environnement, votre tâche, là où Dieu vous demande d'être fidèle. Faites-le et vous verrez que Dieu s'occupe du reste. Car la présence de Dieu surpasse l'épreuve. Nous allons sauter la suite, mais en gros, la justice des lois, vous avez vu que la punition est très, très, très violente. Elle est assez, on se dit, waouh, c'est vraiment, alors on peut se dire, tiens, c'est l'Ancien Testament, là. Donc le roi est tellement heureux de voir que Daniel s'en est sorti, mais tellement triste d'avoir été manipulé par ses propres collaborateurs, parce que il faut dire ce qu'il est, hein. Le roi a été manipulé, vous avez vu? Ils sont arrivés, ils ont fait, ça te dirait de sortir une petite loi, là, sur 30 jours, c'est un petit peu ça, hein. Et dès le lendemain, au fait, t'as pas sorti une loi hier? Eh ben, regarde, celui-là, il l'a transgressé. C'est là qu'il a compris qu'en fait, c'était tout un complot contre Daniel. Et dans cette culture, Mèdes et les Perses, la trahison était très chèrement payée. Toute la famille devait suivre celui qui avait trahi. Et c'est pour cela que toute la famille et tous les administrateurs étaient punis. Mais cela nous rappelle que le péché aussi a un jour une punition. Et un jour, Dieu fera justice de toute société, de tout péché. Dieu fera une bonne justice, mais une justice sainte. Et ce que Dieu nous encourage à faire face à cette justice, c'est de venir à lui et de recevoir la grâce. Car contrairement à Daniel, moi, je ne suis pas parfait. Contrairement à Daniel, j'ai beaucoup de choses où Dieu pourrait me reprocher des choses. Mon temps avec Dieu n'est pas toujours celui que je voudrais qu'il soit. Et c'est pour ça que j'ai besoin du pardon et de la grâce de Dieu manifestée en Jésus. Au final, Darius reconnaît l'Éternel, et on pense que, pour beaucoup de commentateurs, que Darius ici n'est pas Darius premier. Bon, pour ceux qui aiment l'histoire, en fait, donc il y a eu Cyrus premier, enfin Cyrus II, Cyrus qui était, et en fait, on pense que Cyrus ici, c'est Darius. Il est dit cela au verset 29. Daniel prospéra sous le règne de Darius, c'est-à-dire de Cyrus le Perse. Donc ce qui est sûr, c'est que ici, Darius reconnaît l'Éternel. Et voilà ce qu'il proclame. Je le reprends au verset 27. J'ordonne, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et un profond respect pour le Dieu de Daniel. En effet, il est le Dieu vivant, il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui accomplit des signes et des miracles dans les ciels et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la griffe des lions. Et on retrouve notre ami ici, là, Darius Cyrus, avec Esdras. Et Esdras dira que Cyrus a lancé un décret qui autorise les Juifs à revenir et à construire le temple. Et on pense, je pense, que c'est grâce à l'impact que Daniel a eu sur Cyrus. Il a écrit que l'Esprit de l'Éternel éveilla l'esprit de Cyrus. Mais je pense que c'est grâce à l'impact que Daniel a eu, à son attitude vis-à-vis de Darius. Daniel est comme un type de Christ. Pourquoi ? Dans cette petite histoire, Daniel est un homme reconnu pour ses qualités, ses compétences et même son intégrité. Et cette intégrité, son attitude a amené succès parce qu'il fait bien les choses et il s'élève. Jésus-Christ était reconnu pour ses bienfaits, son enseignement, sa beauté d'œuvre et d'action, son amour. Et cela a amené succès parce que beaucoup d'hommes et de femmes ont entouré Jésus. Mais de chaque succès, jalousie est née. Jalousie du succès de Daniel, et il est dit dans la parole de Dieu que les pharisiens et les autres enseignants furent jaloux du succès de Jésus, parce qu'il avait beaucoup de gens autour de lui. et qu'à cause de cela, ils voulaient se débarrasser de Jésus. Donc, une des raisons pour laquelle Jésus a été crucifié, c'était la jalousie des hommes en place. À la différence de Daniel, c'est que Jésus est vraiment allé jusqu'à la mort. Mais comme Daniel, la gloire de Dieu est arrivée à partir de cette épreuve et de cette souffrance. Au final, Darius reconnaît l'Éternel et impose finalement qu'on respecte et honore l'Éternel dans tout son royaume. Au final, Christ est exalté et Dieu est glorifié lors de la croix. Et il est glorifié sur la terre entière. Voici 4 points pour terminer. Chers amis, gardons confiance à Dieu, en Dieu. Même dans les épreuves les plus rudes, quel que soit ce que vous traversez, sachez que Dieu est au contrôle comme il le fut dans la fosse aux lions. Fuyons la jalousie et tout ce qui déshonore Dieu et notre prochain. Daniel a été fidèle envers Dieu, envers son prochain. Dès que quelque chose peut faire du mal à l'autre, ne soyons pas de ceux qui y participent, frères et sœurs. Faisons de notre attachement à Dieu notre priorité absolue. Dans votre vie, qu'est-ce qui a de la valeur? Je vous propose que ce soit Dieu avant tout. Et ce qui est formidable, c'est que lorsque nous vivons cela, alors nous pouvons proclamer la dernière phrase, « Tout ce dont nous avons besoin est en Christ ». Vous pouvez tout perdre si vous avez Jésus-Christ, vous avez tout. Vous avez tout ce qui est nécessaire pour qu'un homme ou pour qu'une femme s'épanouisse, se construise, avance dans la vie et surtout, soit en communion parfaite et belle avec Dieu. Jésus-Christ veut tout vous donner, tout ce dont vous avez besoin pour avancer, même si vous perdez santé, matériel, vous avez ce dont vous avez besoin en Jésus-Christ. Vous vous savez aimer, vous savez protéger et vous pouvez, vous, en retour, aimer l'autre. Et vous pouvez avoir les ressources pour faire du bien à l'autre. Merci au Seigneur pour Daniel, ce bel exemple. Merci au Seigneur pour cet encouragement qu'il nous accorde avec cette histoire formidable. Je vais encore prier que Dieu nous aide à vivre et à être encouragés par sa parole. Seigneur Jésus, merci parce que il est bon, il est vraiment bon de méditer ta parole. Et merci parce qu'on aime entendre la vérité, celle qui fait du bien à notre âme, celle qui nous relève, nous encourage et nous édifie. Cet après-midi encore, j'aimerais que tu relèves, que tu édifies et que tu encourages ceux et celles qui ont reçu ta parole. Éternel roi, je te prie de bénir tous ceux et toutes celles qui traversent des épreuves, qu'ils sachent que comme tu as délivré Daniel de la fosse aux lions, tu peux les délivrer et qu'ils peuvent te faire confiance sans aucune crainte ni hésitation. Seigneur Jésus, je te prie pour tous ceux et toutes celles qui luttent aujourd'hui contre la jalousie ou contre l'envie. Je te prie de les aider à être délivrés de cela et à trouver leur bien, non pas dans les choses qui les entourent, mais en toi. Seigneur Jésus, je te prie, nous toutes et nous tous, de nous aider à faire de notre attachement à ta personne, faire de ce temps avec toi, de notre relation avec toi, notre priorité absolue. Nous avons besoin de toi, aide-nous à en être conscients. Et Seigneur Jésus, je te prie de graver dans nos cœurs que tout ce dont nous avons besoin, nous l'avons déjà en toi. Grave dans nos cœurs cette vérité, que le monde ne nous fasse pas croire que nous avons que nous devons encore avoir d'autres choses pour être heureux, mais que tu puisses mettre dans nos cœurs, oui, en Jésus, vous avez tout ce qui est bon pour votre vie. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ton amour et ta bonté. Bénis encore l'Église de Saint-Maur, chaque frère, chaque sœur ici présent. Au nom de Jésus. Amen.